Les héroïnes, une heure avec des meufs.
Il y a quelque chose qui nous lie, nous vivons toutes les deux la nuit. Nous sommes nés sur les mêmes terres, encore plus à l'ouest que l'enfer. Jamais je ne te l'ai dit, je pense que la mélancolie qui coule dans ton sang et le mien est issue de ce foutu sein.
Les héroïnes, une heure avec des meufs sur Canal B.
Bonjour à toutes et à tous, c'est Morgane et bienvenue dans Les Héroïnes et bonne année. Alors, on vous souhaite de l'égalité, de la sororité, des rapports sains et normaux entre les gens. Plus de câlins, moins de Michel Drucker au vestiaire, moins de vieux mecs blancs bourgeois privilégiés, plus de meufs badass, vieilles, jeunes, valides, non valides, binaires, non binaires, lesbiennes, hétéros, noires, racisées, blanches, moins d'agressions, plus de condamnations, moins de réarmement démographique et d'injonctions sur nos utérus, plus de liberté et de blocus. Ça, c'était pour la rime utérus-blocus. Il y avait d'autres choses, hein, Stradivarius, plus de Stradivarius, si on veut. En tout cas, bonne année. Je suis accompagnée de Marine Combes, de Suzanne Joly, d'Emma Baudouin. Marine, vos vœux pour 2024?
Vous avez dit plein de choses déjà, mais de l'engagement. Peu importe, enfin si... Pas peu importe, il y a quand même voilà, une certaine orientation dans l'engagement, mais voilà, de l'engagement, fini l'indifférence.
Ouais, on va continuer à ouvrir nos gueules.
Voilà.
Suzanne, vos vœux pour 2024?
Bah oui, ça va dans le même sens, je dirais une mobilisation sans précédent pour le 8 mars, ça nous laisse un petit peu de temps pour s'organiser et pour faire la révolution face à ce gouvernement qui n'en finit pas de dire des dingueries un peu plus chaque jour.
On est bien d'accord. Emma?
Bah, du coup, ça a déjà un peu été dit. Ça va crescendo, mais oui, la révolution.
Il y en a marre. Ouais. Moi, ça fait quelques années que je fais le vœu de la révolution, mais ça prend pas trop. Voilà, en tout cas, on vous souhaite plein de bonnes choses dans le bon sens. On a plein de choses à vous dire en ce début d'année. Donc, je suis avec Suzanne Joly, fondatrice des ateliers d'éducation à l'égalité, filles-garçons, à la vie affective et à la vie sexuelle. Suzette décolle les étiquettes. Avec Emma Baudouin, étudiante à Sciences Po Rennes en année de césure.
Ouais.
Actuellement à l'Arvor,
ouais.
Voilà, avec Marine Combes, fondatrice et rédactrice en chef du magazine YEG qu'on retrouve sur yegmag.fr. Voilà, quel joli quatuor. je savais que cette émission allait être compliquée, mais dès le départ quand même, non. Laquelle d'entre vous a envie de commencer aujourd'hui? Alors ne répondez, ne vous battez pas autour du micro. Ok, bah je désigne. Alors je fais plouf plouf. Marine, je vous sens bien motivée.
voilà, moi j'ai une double actu, on va dire. Hein, par rapport à un spectacle qui a lieu en ce moment au CCNRB, donc ancien musée de la danse de Rennes. Ça a commencé mercredi et il y a une carte blanche demain de 17h à point d'heure. Le spectacle, c'est pour un temps soit peu. C'est un texte qui est interprété sur scène par Lorraine Marx. Elle est autrice trans non-binaire et c'est mis en scène par Fanny Sintès, hein, avec qui elles ont fondé la compagnie Je t'accapare. Alors, pour un temps soit peu, c'est un stand-up triste, c'est un coup de poing, un texte militant et percutant qui aborde le parcours non fantasmé d'une femme trans en transition. Elle aborde les micro- et macro-agressions des professionnels de la santé, l'injonction à la binarité et à l'ultra-féminité, l'obsession des gens pour les organes génitaux des personnes trans, l'égocentrisme de l'entourage, les désirs malsains de certains hommes riches et de pouvoir, l'invisibilisation des personnes trans dans les représentations ou alors quand elles sont présentes, on va les réduire souvent à des êtres incomplets, pas finis, en devenir, mais en tout cas jamais à l'état présent, jamais complexe, multiple. Donc pendant 2 heures, voire plus, hein, selon les improvisations de Lorraine Marx, elle tutoie son auditoire contradictoire qu'elle met en branle entre humour, sarcasme, manifeste, colère, violence et souffrance. Il y a de l'espoir, du rêve, du désir, l'amour de soi et celui des autres. Hein. Ça se glisse dans les interstices de ce texte qui prend aux tripes parce que, comme elle l'évoque, en France, on n'a que le mot comprendre pour dire comprendre, mais elle effectue bien la nuance entre la compréhension intellectuelle et la compréhension viscérale. Et accompagnée de Fanny Saintès, elle nous touche aux deux avec brio. Le message passe, laisse des traces et puis ça se partage vraiment sans envie, en tout cas que ça se finisse. Donc c'est à voir encore ce soir. Bon, je dis ça, mais c'est complet. Et demain, donc, de 17h à point d'heure. Et donc, moi, j'ai vu le spectacle mercredi soir. Et pendant une grande partie du spectacle, elle interroge, hein, c'est quoi, finalement, être une femme ? Et dans mon bide, ça résonnait avec le rassemblement qui a été organisé quelques heures plus tôt par l'association Prendre le droit devant la cité judiciaire. Les militantes y ont dénoncé les classements sans suite qui opèrent majoritairement dans les affaires de violences sexuelles. Elles rappellent les chiffres qu'elles empruntent au ministère de l'Intérieur et aux enquêtes de victimation. Une femme sur 7 et un homme sur 20 est victime d'un viol ou d'une agression sexuelle au cours de sa vie. Et 95% des femmes et 75% des hommes dénoncent des hommes agresseurs. Souvent, hein, des proches dans un gros 80%. Elle rappelle aussi qu'en droit français, en fait, il y a la présomption de consentement à l'acte sexuel. Hein, donc c'est à la victime de prouver qu'il y a eu violence, contrainte, menace ou surprise. Et c'est aux victimes de se justifier devant les forces de l'ordre concernant leur tenue, leur comportement, leur degré d'alcoolisation, leur mode de vie, etc. Les procédures, elle le rappelle, sont lentes, longues, pénibles, éprouvantes. Et dans 80% des cas en France, mais 98% des cas pour l'association Prendre le droit, les plaintes sont classées sans suite. Et seulement 1% des plaintes aboutissent à une condamnation. Alors rappelons que l'État incite vivement et culpabilise bien celles qui ne le font pas à porter plainte. Et bien sûr, elles sont pas nombreuses à dénoncer leurs agresseurs. Il y a qu'à voir les réactions face aux accusations de Depardieu et autres génies du mal pour comprendre. Donc les militantes de Prendre le droit, elles expliquent même que désormais les personnes qui portent plainte sont préparées à voir leur plainte être classée sans suite. Donc on leur explique bien, longuement, longtemps, à plusieurs reprises, que ça va être classé sans suite. Comme ça, elles sont pas déçues.
Voilà. Elles sont préparées, bien.
Elles sont préparées.
Que le cerveau humain, il fonctionne comme ça.
Il faut répéter. C'est comme avec les enfants. Hein. Au bout d'un moment, ça finit par rentrer, puis il n'y a plus du tout de frustration. Bref, elle dénonce une justice patriarcale et elle réclame des moyens pour former les forces de l'ordre et les membres de la justice et bien sûr, pour une information globale et bien sûr, une sensibilisation de toutes les populations. On sait que ça passe par l'éducation non genrée, la déconstruction des stéréotypes sexistes, la formation, etc. De notre côté, chez YEG, on a entamé donc une enquête auprès des concernés, des membres de la justice, des militantes. On pourra en reparler et ce sera donc à lire sur yegmag.fr prochainement.
Et on a hâte de lire cette enquête. Et vous avez contacté, vous étiez proche de l'association Prendre le droit, qui donc mercredi manifestait devant le commissariat centrale de Rennes pour dénoncer ces classements sans suite et c'est absolument scandaleux. Alors après, moi, j'ai une petite lueur d'espoir. J'ai vu la réaction d'enfants, d'adolescents devant des images qui apparaissaient de Depardieu. J'ai entendu des « Oh !» Je me dis, on est en train peut-être de gagner certains trucs. Suzanne, vous voulez nous parler aujourd'hui du hashtag #MeTooStandUp qui concerne donc la scène humoristique et notamment l'humoriste Florence Mendez qui a pris la parole contre Seb Melia.
Exactement, on va parler d'humour, mais ça va pas être drôle du tout, puisque, comme vous le disiez, le hashtag #MeTooStandUp fait du bruit depuis quelques jours, depuis le week-end dernier. Et donc effectivement, c'est au tour de la scène humoristique de faire son grand nettoyage et c'est que le début apparemment. Comme d'hab, on sait que les violences sexistes et sexuelles touchent absolument tous les milieux, mais quand on découvre une fois de plus que de nouvelles histoires à la fois sordides mais aussi terriblement banales, qui étaient déjà connues en off et qui n'attendaient qu'à être révélées telles que c'est le cas aujourd'hui, ça nous met toujours une claque supplémentaire. Alors voici l'histoire. Le 12 janvier dernier, l'humoriste belge Florence Mendez s'est exprimée publiquement sur les réseaux sociaux concernant les agissements plus que problématiques d'un autre humoriste, Seb Melia. Et lors de cette première prise de parole, Florence Mendès se disait déjà consciente des répercussions auxquelles elle pouvait s'exposer, à la fois professionnellement et personnellement par ses révélations, mais elle indiquait aussi qu'elle ne pouvait plus se taire. Si elle-même, elle n'a pas été victime des agissements de Seb Melia, elle s'est faite porte-parole de ses consoeurs et donc elle présentait pour cette première prise de parole 4 témoignages de violences sexuelles perpétuées par Seb Melia, recueillis depuis plusieurs mois. Et puis en fait, ça a fait l'effet d'un pavé dans la mare puisque cette prise de parole publique a permis à d'autres témoignages de voir le jour et donc le chiffre de recueil de témoignages n'a cessé d'augmenter. Et en quelques jours, elle a reçu une vingtaine de témoignages, toujours concernant Seb Melia, de personnes ne se connaissant pas mais allant pourtant dans le même sens. Et donc ces témoignages dénoncent d'une part des rapports sexuels parfois consentis mais brutaux, c'est ce qu'on appelle aussi la coercition sexuelle graduelle. Ça dénonce également le retrait non consenti du préservatif pendant l'acte, ce qu'on appelle aussi le stealthing, et puis bien sûr des faits de harcèlement sexuel, d'agression sexuelle ou encore de viol. Donc, dans un article pour le magazine Cosette, Florence Mendès déclare que les affaires Depardieu et Godrèche l'ont poussée à elle aussi s'exprimer en déclarant « J'ai vu que le 13 janvier, Seb Melia venait jouer à Bruxelles dans une grosse salle et j'ai réalisé qu'il allait encore faire des victimes car il y en a qui font partie de son public. Je me suis dit « Tant pis si je m'en prends plein la gueule, il en faut bien une première ». Elle a donc appelé à manifester devant, mais aussi dans la salle du cirque royal à Bruxelles, le soir même de la représentation de Seb Melia. Des militants et militantes ont interrompu le spectacle, criant au viol, lisant des témoignages. Une séquence franchement puissante, tellement pleine de courage, parce qu'on ne cesse de scander en manifestation que la honte doit changer de camp. Et là, pour une fois, on découvre un humoriste bien penaud, seul sur scène, face à toutes ces accusations et face au pouvoir des militants et militantes qui l'ont bien ouvert ce soir-là. Lui, il a seulement rétorqué que ce n'était pas ici qu'il pourrait s'expliquer et qu'il y avait une justice pour ça. Et ce à quoi Florence Mendès a rétorqué devant les caméras venues filmer l'action, c'est un humoriste en France, il ne sera pas jugé, au pire, il recevra un César. Depuis ces révélations, Seb Melia ne s'est pas exprimé davantage face à ces accusations autrement que sur cette fameuse scène. Il a toutefois passé son compte X, anciennement Twitter, en privé et il a fermé sa chaîne YouTube. Florence Mendès, quant à elle, reçoit le soutien de quelques autres humoristes, mais vit bien sûr le backlash traditionnel de la part du public. On lui reproche de se faire de l'argent avec ses accusations et sur le dos des victimes, d'en profiter pour faire la promotion de son livre sorti tout début janvier et de son spectacle qui est actuellement en tournée. Mais comme elle le dit si bien, c'est tuer un adolescent de 17 ans à bout portant qui rend millionnaire, pas de dénoncer des agresseurs. D'ailleurs, elle subit aussi le backlash de la scène humoristique car selon elle, dénoncer dans ce milieu, c'est synonyme de ne plus être invité sur les plateaux. Donc depuis, et pour se protéger, Florence Mendès, elle a passé le relais à l'association Derrière le Rideau qui milite en faveur de la libération de la parole dans le milieu du spectacle vivant. Et elle a passé également le relais à une journaliste, Colline Claveau-Mégevant, qui récolte du coup les témoignages autour du hashtag MeTooStandUp. Et d'après cette journaliste, ils sont nombreux et ils arrivent en masse. Ce n'est donc que le début de l'histoire.
Et comme d'habitude, on va dire que oui, elle fait ça pour vendre son livre et qu'elle a brisé une carrière. C'est un homme qui ne pourra plus faire d'humour. Ayons une pensée.
Par ailleurs, j'ai très envie d'acheter son livre, du coup, parce que voilà.
Ouais. Alors moi, je crois que je la confonds avec une autre humoriste qui s'appelle Anna Godefroy. Et il y en a une des deux qui avait eu le courage devant M6 parce qu'elle allait travailler chez M6 dans une émission. Est-ce que la chaîne Teva fait partie du groupe M6? Je crois qu'elle allait sur Teva, elle devait aller. Enfin bref, et il y a comme ça un mec qui arrive et elle hurle quoi un truc à l'encontre de ce mec et elle s'est fait virer dans mes dents. Elle a même pas pu rentrer dans travailler quoi. Ils l'ont viré tout de suite. Et je sais pas pourquoi je vois l'image de, comment il s'appelle, Bernard Arnault. Alors, Bernard Arnault qui arrive chez M6, ça me semble un peu fou, mais je sais plus si elle dénonce, voilà, et je les confonds toutes les deux. Je sais pas si c'est Florence Mendès, mais en tout cas, c'est des nanas
En tout cas, Florence Mendès, elle avait déjà dénoncé les viols de Harry Habitant, un autre acteur, je crois. Ouais. Et depuis, elle avait déjà été un peu blacklistée de plein de scènes, etc. Et c'est pour ça que d'ailleurs, elle a fait son spectacle en autoproduction. Et que,
ouais. Et elle s'est fait virer de France Inter aussi. Elle avait dénoncé, enfin, le harcèlement dont elle faisait.
Oui, ouais, 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 c'est vrai. Il y a quelques, il y a
comme quoi,
deux,
ça
trois
paye
ans.
Pour sa carrière à elle.
Bah, bien sûr, hein, on le sait bien. Alors, elle a été soutenue sur France Inter. Enfin, en tout cas, c'est un garçon qui intervient sur France Inter et qui est assez brillant. En tout cas, moi, je l'adore. Elle a été soutenue par Walidia, qui, si vous le connaissez pas, allez voir ce qu'il fait parce que, ouais, c'est très, très intéressant. Et heureusement qu'il y a des gens pour la soutenir. Nous, en tout cas, on soutient cette, son initiative. Emma?
Oui.
Vous aussi, vous êtes un peu en colère, mais cette fois contre le corps médical.
Ouais, ouais. J'en ai marre. Ouais,
je vous comprends.
Parce que du coup, par période, il y a différentes strates en fait, du patriarcat qui m'énervent particulièrement. Mais du coup, en ce moment, j'ai vraiment envie de crier tous les jours pour qu'on me rende mon corps, dont apparemment la bonne santé dépend de médecins qui, bah, qui n'y connaissent rien. Donc, il y a 10 jours, Mediapart révélait une enquête sur les bandelettes urinaires prescrites en cas de fuite urinaire ou de descente d'organes. Donc, ce sont des bandelettes en polypropylène, une matière plastique placée sous la vessie. Et dans de nombreux pays, cette pratique n'est réservée qu'aux situations exceptionnelles puisqu'elle peut amener à des complications comme, par exemple, hein, une érosion du vagin, de l'incontinence, des perforations d'organes, des douleurs pendant les rapports sexuels et des problèmes neuromusculaires. En France, par contre, les chirurgiens et chirurgiennes le proposent encore sans informer les patients des risques, malgré un encadrement du ministère qui les y oblige. Et heureusement, de nombreuses victimes se sont retrouvées à travers des groupes Facebook et ont pu témoigner et s'organiser pour les enlever. Mais alors, il est temps de feindre l'étonnement et de se poser cette grande question. Oh là là, mais comment diable un dispositif avec de tels risques a-t-il pu être mis sur le marché ? Bah, la réponse est la même que d'habitude, hein. C'est le résultat d'un mélange de cynisme, de mépris, de négligence et de je m'en foutisme. En effet, suite à des actions en justice aux États-Unis, il a été montré que la plupart de ces implants n'ont en fait pas été testés à grande échelle avant d'être mis sur le marché.
Oh bah dis donc.
Oh là là, ça alors. Donc voilà, pour ma chronique d'aujourd'hui, je vous ai préparé un mini quiz.
Allez.
Alors le jeu. Donc je vais vous dire des noms de dispositifs médicaux ou de médicaments principalement destinés aux femmes. Et vous, vous devez deviner si l'objet a été à l'origine de scandales liés à des complications.
Waouh, d'accord, on va
en
essayer.
En vrai, c'est pas si difficile. Donc on commence facile, la pilule contraceptive.
Ouais, oui. Scandale.
Scandale, et oui. Donc sur certaines pilules donc de 3e et 4e génération, en plus des maux de tête, des hormones en vrac, des saignements, de la prise de poids, blablabla, certaines pilules augmentent les risques d'embolie pulmonaire, de thrombose et d'accidents cardiovasculaires. Un autre, les prothèses mammaires.
Eh oui, scandale.
Eh oui. On félicite la marque française Pip qui a réussi à faire des prothèses mammaires dont le silicone fuit dans le corps. Oups.
C'est ballot.
Donc un autre un peu moins connu, le Distilbène.
Oui. Alors moi je suis la plus vieille ici et je m'en sers. Oui, le Distilbène comme la dépakine. Oui, c'est un scandale le Distilbène. Ouais.
Voilà. Et bah c'est un médicament du coup censé prévenir les fausses couches ou du coup grossesse arrêtée, comme on disait la dernière fois.
Ouais.
Pris par des femmes enceintes et qui a causé donc chez leurs enfants bah, des cancers, des malformations et des fausses couches.
Ouais. Et des, beaucoup de malformations. Ouais.
Voilà. Alors, un autre, le stérilet.
Bah, je sais pas.
J'espère que non.
Ça dépend pour qui.
Ouais, c'est
il
ça, ça dépend.
Il crée scandale quand la femme n'a pas encore eu d'enfant.
Mais
oui,
alors,
en plus.
C'est ce qu'on a dit longtemps. Pour pas leur mettre au nullipare, aux femmes qui n'avaient pas eu d'enfants, des stérilets, alors qu'en fait, il y a des tailles plus petites. Mmh. Bah ouais, je crois que ça dépend. Moi, je dirais non.
Il y a un lien avec les grossesses extra-utérines, par contre.
Oui, alors oui, bah, de toute façon, du coup, il y a beaucoup de défaillances en général.
C'était peut-être pas ta question, en fait. Nous, on s'est emballés, mais...
Bah, c'est qu'en plus, il y a une marque, Mirena, qui s'appelait, qui a fait, en fait, des stérilets hormonaux, il me semble, qui a donné à de nombreuses personnes des dépressions, des crises d'angoisse, mais aussi des calculs biliaires, des pertes de cheveux et de la tachycardie, et j'en passe.
La vache.
Voilà.
Oh merde.
Vasectomie pour tous.
Ouais, non mais...
Bon, bah, voilà. Il y en avait un dernier, le Levothyrox, mais il est, assez connu.
Ah ouais. Thyroïde, scandale. Alors, scandale aussi parce que pour ceux qui prenaient l'ancienne formule, l'ancienne molécule, parce que ceux qui ont commencé avec le nouveau n'ont pas ressenti les mêmes soucis. Merci Emma pour ce quiz médical.
Mais pas de soucis.
Alors, moi, je vais en rajouter sur le médical parce que j'ai vu passer les résultats d'une étude toute fraîche qui a été réalisée par Xavier Bobia. Xavier Bobia, il est chef des urgences au CHU de Montpellier et il vient de publier donc les résultats de l'étude qu'il vient de mener auprès de 1500 soignants dans 159 villes de France, Suisse, Belgique et à Monaco. Et les résultats, suspense. Si vous vous pointez aux urgences avec des douleurs thoraciques et que vous êtes une femme, pire, une femme racisée, une femme noire, vous allez être moins bien traitée, moins bien soignée. Le cas d'une femme noire est considéré comme grave dans 40% des cas, quand celui d'un homme blanc est considéré comme grave dans 60% des cas. Alors, ce sont bien sûr de vilains et persistants préjugés sexistes et racistes qui entraînent ces diagnostics chez les soignants et soignantes. Et ce médecin voudrait que ça change parce qu'il y a deux cas de femmes racisées, de femmes noires qui jeunes. Il y a Aïcha, 13 ans, qui est morte récemment parce que le SAMU n'a pas du tout pris en considération sa douleur. Et avant elle, il y avait eu Naomi Mensinga qui était également, qui n'avait pas été prise en charge correctement parce que femme noire. Et puis, pour finir, parce que c'est jamais fini avec la santé des femmes, avec les femmes tout court, vous avez dû en entendre parler, c'est la Haute Autorité de Santé et ce fameux test pour déceler l'endométriose.
750 €, c'est ça?
Ouais.
À peu près.
C'est cher comme merde, ils abusent.
Faut savoir ce qu'on veut.
Ouais. Alors, juste pour la petite, pour faire le speech, le pitch, ce que vous voulez, l'endométriose, quand on en est atteinte, on peut passer environ 7 ans en moyenne d'errance médicale pour finalement avoir le diagnostic. Oui, vous êtes atteinte d'endométriose. Non, vous n'êtes pas folle. Vous avez vraiment mal et on va vous prendre en charge. Et là, ce test sort et tout le monde dit « Ah oui, oui, il est très efficace. Ah oui, oui, il marche, c'est un test salivaire. » Et en 10 jours, on sait si on est atteinte d'endométriose ou pas. Et la Haute Autorité de Santé dit « Ah ouais, c'est super, il est efficace. » Mais non, on va pas le rembourser. Alors, pourquoi ? Parce que on ne sait pas.
Je la trouve bien, moi, cette blague. Je trouve qu'elle est bien.
T'as vu, je maîtrise. Je vais peut-être me lancer dans le stand-up. Je vais. Et puis je dénoncerai les connards. Voilà, alors. Et donc, ce test, il marche, il fonctionne. La Haute Autorité de Santé fait tous les tests et tout. C'est génial, il marche. Mais non, on va pas le rembourser parce que l'argument, c'est. On ne voit pas bien l'intérêt que les femmes soient au courant qu'elles sont atteintes d'endométriose. Eh ouais, on ne voit pas l'intérêt qu'elles sachent.
Oui.
Voilà. Et si ça, c'est pas de la. Non, mais vraiment, c'est barge, quoi. C'est barge. Et toutes les associations sont vent debout, là, depuis quelques jours, et on les comprend. Parce que, on a inventé le Viagra, mais on veut pas rembourser un test qui peut concerner. Alors, c'est même plus une femme sur 10, c'est une à deux femmes sur 10 qui vivraient des douleurs vraiment insupportables. Et voilà où on en est. 2024 commence bien. nous, on va poursuivre en musique. Ah ouais, on va faire une pause musicale dans Les Héroïnes sur Canal B. Et on va écouter Trunks avec le titre « Les belles choses ». Ça, c'était les belles choses du groupe Trunks sur Canal B dans les Héroïnes. Alors avant de faire cette pause musicale, on était sur la colère d'Emma et la mienne et la nôtre par rapport au corps médical et à la haute autorité de santé. On a participé à un quiz qu'on a assez bien réussi. On a combien, Emma ?
5 sur 5.
Ouais, super, merci.
J'avais pas de barème, j'avoue. Je suis contre la notation de toute façon.
Bah oui, on peut avoir un A,
ouais.
Un A+. Plus.
A plus.
Ah, bon, allez.
Une image.
Oui, voilà, un smiley.
Un smiley très heureux.
Et donc, Emma, vous aviez d'autres choses à nous dire sur cette colère face au corps médical.
Oui, mais avant tout, je voulais juste vous rassurer. parce que moi, du coup, pendant mes recherches, en fait, j'ai été j'ai fait un petit tour sur le site du gouvernement. Et donc, il y a cette partie tous et toutes égaux, ou toutes et tous, je ne sais pas à quel point. Voilà, ils sont woke. Mais du coup, qui dit « La santé des femmes est un levier puissant de lutte contre les inégalités entre les femmes et les hommes. »
Oui, c'est vrai.
Voilà.
C'est vrai.
Bah, c'est tout ce qu'ils ont fait, mais...
C'est bon. Toujours dans le quiz ou...
Voilà, ils ont dit quelque chose au moins.
Bien sûr, mais ils ne sont pas très woke.
Non, pas trop.
J'ai la réponse.
Et du coup, oui, comme le disait Morgane, de nombreuses études ont montré que pour les mêmes symptômes, donc une femme... est moins prise au sérieux et moins prise en charge qu'un homme, encore plus pour les femmes racisées. Et le pire, c'est qu'on en vient presque à les croire hein, quand elles disent des conneries. Et du coup, d'ailleurs, je profite de cette chronique pour faire une super dédicace à cette gynéco du centre de Rennes qui a insisté pour m'expliquer qu'un rapport sexuel était forcément pénétratif, à tel point que j'en suis venue à me demander moi-même si c'était bien du sexe que j'avais fait. Big up à elle. Et de toute façon... les médecins savent tout et nous, on ne sait rien, évidemment. Et parce qu'on est bêtes et que la science, bah, c'est pas pour nous. Donc si vous avez mal, très mal quelque part, ne vous en faites pas. Le médecin tout puissant, plutôt que de reconnaître ses failles et d'avouer que trop occupé à humilier et ou agresser sexuellement ses camarades dans les soirées d'intégration, a loupé le chapitre sur l'obstétrique, il saura toujours quand même trouver le bon mot pour vous rassurer. C'est dans votre tête.
Voilà, voilà.
Donc même si l'universalité de la blouse blanche aimerait nous faire croire le contraire, comme on l'a déjà dit, là, la science n'est pas objective. La science et les médecins produisent et reproduisent les rapports de pouvoir présents dans toute la société. Et elles ont des préjugés sexistes, racistes, classistes, validistes, bla bla bla. Mais ça va encore plus loin puisque Mona Chollet nous dit que la médecine semble être la scène centrale sur laquelle s'est jouée la guerre de la science moderne contre les femmes. Et en effet, dans leur livre « Sorcières, sages-femmes et infirmières », Barbara Ehrenreich et Deirdre English expliquent qu'au Moyen-Âge, la médecine était pratiquée par les sorcières, les guérisseuses à base de plantes et de médicaments appris au fil des siècles, mais qu'après la chasse aux sorcières, la création d'une profession de médecine apprise à l'université ne confère cette légitimité de pratiquer qu'aux hommes bourgeois. Donc progressivement, tout est fait pour supprimer la transmission de ces pratiques entre femmes et assurer que le savoir et donc le pouvoir ne soient qu'entre les mains des hommes. Donc face à ce problème systémique, je ne vois qu'une solution. Puisque la médecine est ancrée dans le patriarcat et que la plupart des dispositifs médicaux utilisés nous mutilent, il est temps de se réapproprier et de se partager la connaissance médicale. Ehrenreich et English le disent, l'apprentissage de la médecine fait partie de notre héritage. Donc apprenons-nous notre anatomie, partageons nos connaissances entre sœurs, voisines, cousines, mères et filles chroniqueuses, cultivons les plantes médicinales et croyons ensemble aux sorcières. Et surtout pensez-y la prochaine fois qu'un médecin vous méprise, ignore vos questions ou vous regarde avec ses yeux vides là, rappelez-lui que ce sont les sorcières qui ont tout inventé alors que lui, ses ancêtres, ils tiraient encore leur diagnostic de l'astrologie. Et comme toujours, soyons vigilantes et vigilants. Perso, je suis à deux doigts de lancer mon propre club pour s'apprendre à avorter entre nous, surtout en ces temps de réarmement démographique. Mais je vous tiens au courant.
Merci Emma. Je ne vais pas revenir, j'ai très envie, hein, mais je ne vais pas revenir sur ces gens qui ont une sexualité, ça les regarde. ça les regarde, mais qu'ils ne jugent pas la nôtre. Voilà, c'est surtout ça, le jugement et les leçons reçues. Merci en tout cas, Emma. Alors, bien sûr, moi, je suis partie sur la politique. Tiens, c'est très étonnant, sous la rue, que tu fasses de la politique. Parce que figurez-vous que nous avons une nouvelle ministre déléguée à l'égalité entre les femmes et les hommes et à la lutte contre les discriminations. Exit, ouais, Bérangère Couillard, à la porte. Elle cède sa place à la conservatrice Aurore Berger. J'avais envie de lui créer un petit jingle. Aurore Berger. Aurore Berger, 37 ans, ex-UMP, ex-LR et aujourd'hui macroniste. Elle a soutenu Fillon. Elle a soutenu Sarkozy et s'est opposée au mariage et à l'adoption pour les personnes de même sexe. Bon, depuis, elle a changé d'avis. Je lui accorde, elle a même été manifestée pour le mariage pour tous aux côtés de Roro Bachelot. Mais elle avait aussi tweeté être opposée au mariage et à l'adoption pour les homosexuels. Et mine de rien, on ne peut pas s'empêcher de garder ça dans un coin de sa tête. Et puis, elle a rencontré les militantes TERF. Alors TERF, trans, je vais essayer de le dire, trans-exclusionnerie radicale féministe. En gros, ce sont les femmes qui considèrent, enfin les féministes, mais j'ai du mal à le dire, qui considèrent que les femmes trans sont des hommes. Reste des hommes. Elles se disent aussi féministes et c'est Dora Moutot et Marguerite Stern et donc Aurore Berger les a rencontrées et ça aussi ça pose quand même problème. Elle a en novembre 2022 déposé, Aurore Berger toujours, déposé un amendement dont la formulation laissait à penser qu'elle voulait exclure les hommes trans de la constitutionnalisation de l'IVG. Je cite, « Nulle femme ne peut être privée du droit à l'IVG ». Alors qu'on aurait pu mettre nul être humain, je sais pas, nulle personne. Et ça aussi, ça pose problème. Oui, vraiment, ça n'est pas sain. Et d'ailleurs, une pétition a été lancée par une députée LFI, Ségolène Amiot, pour la démission d'Aurore Berger. Bref, je le disais, ça me pose problème et ça pose problème à plusieurs collectifs LGBTQIA+. On peut les comprendre et on peut s'inquiéter avec eux et à des associations féministes comme Oser le féminisme qui, par exemple, s'inquiètent de ce turnover à ce ministère délégué à l'égalité et aux discriminations puisque je rappelle que Bérangère Couillard, elle était arrivée au poste en juillet dernier, il y a 6 mois. Et que là, ce turnover peut faire craindre et c'est ce que craint Oser le féminisme pour la bonne continuité des projets en cours sur ces questions. Et puis, Aurore Berger, quand même, elle est l'instigatrice d'une commission parentalité qu'elle a lancée début décembre, alors qu'elle était encore ministre des Solidarités et des Familles, dont plusieurs membres vont démissionner à peine arrivés parce qu'ils se sentent pris au piège, instrumentalisés, notamment quand Aurore Berger a parlé des réponses sécuritaires que le gouvernement allait apporter suite aux émeutes. Alors, c'est eux qui disent émeutes, c'est pas forcément le mot que j'emploierais, survenue après la mort de Naël en juin dernier. Les démissionnaires ont rappelé qu'ils avaient une feuille de route dans laquelle il était question d'épauler les parents dépassés, de tenter de régler les conflits familiaux, de prendre en charge la violence et les dépendances des jeunes. Sauf qu'Aurore Berger, elle n'a parlé que de sanctionner les parents défaillants avec des travaux d'intérêt général, des amendes, des contributions financières si l'enfant est coupable de dégradation. Un discours stigmatisant et des mesures répressives et coercitives, un vieux système voulu depuis toujours par la droite, tapé sur les parents défaillants. Mais attention, pas n'importe lesquels, uniquement les parents défaillants pauvres. Et si possible, immigrés aussi, parce que chez les riches, les Dupont-Moretti, Morano, Fabius, Pécresse, Juppé, Sarkozy, Touraine, Enco, il n'y a pas d'enfants délinquants, il n'y a pas de parents défaillants. Alors, la loi, en fait, elle prévoit déjà de sanctionner les parents défaillants. C'est l'article 227-17 du Code pénal qui permet cela avec 2 ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende pour un parent qui se soustrait sans motif légitime. Et je vous vois, réagir à mon article du code pénal. Je suis bien d'accord avec vous. Donc ça, c'est prévu pour un parent qui se soustrait sans motif légitime à ses obligations légales au point de compromettre la santé, la sécurité, la moralité et l'éducation de son enfant mineur. Encore faut-il caractériser la soustraction du parent à ses obligations légales. Parce que va savoir Si tu n'as pas essayé et interdit à ton enfant de sortir le soir et qu'il n'a pas, lui, usé de la force, parce qu'à 17 ans, il fait 3 têtes et 30 kilos de plus que toi. Va savoir si tu le crois endormi et qu'il fait le mur dès que toi, tu as sombré dans le sommeil après une journée de travail harassante. Et puis, quand même, faut le dire, les pouvoirs publics, les politiques, Anco, ben, il serait peut-être de bon ton de prendre vos responsabilités, parce que quand même, quelle toupet de toujours mettre tout sur le dos, les épaules des parents dits défaillants. Aurore Berger, j'y reviens, Aurore Berger, elle a bien insisté sur un truc. Elle a insisté sur les difficultés des familles monoparentales, rappelant, je cite de point ouvrez les guillemets, les pères ne peuvent se résumer à une pension alimentaire. La société a fini par s'accommoder du fait que les femmes assument seules certaines missions auprès des enfants. Oui, c'est Aurore Berger qui a dit ça. Et alors, autant je la déteste, autant je suis quelqu'un de juste, tu vois, d'honnête, d'intelligent. Et je reconnais que cette dernière phrase, bon, elle n'est pas si conne, quoi. Elle est pas, et elle n'est même pas tombée dans l'oreille d'une sourde. Le problème, c'est que j'attends les mesures, hein. Et que là, ben, comme elle a changé de ministère, eh ben, y aura sans doute pas de mesures de prise. Et c'est bien là le problème. Effet d'annonce, petite com politicienne, tout ça, tout ça. Mais je reviens sur la famille monoparentale quand même. Parce que c'est quoi une famille monoparentale ? Et des pères absents et défaillants dont parle Aurore Berger. Le Centre d'observation de la société publié fin octobre, ça tombe bien, une étude qui révèle que la part des familles monoparentales est passée de 9,4% à 24,9% entre 1975 et 2019, selon l'INSEE. On compte au total 2 millions de familles monoparentales, donc où il n'y a qu'un seul parent, et cela concerne 3,5 millions de personnes en France. Et dans 82% des cas, vous voyez où je veux en venir, ces familles sont composées d'une mère et de ses enfants. Alors bien sûr, il y a l'évolution de la société, la progression du divorce, que l'on peut voir comme un bien, tout ça, tout ça. Mais le taux de pauvreté des familles monoparentales, ben lui, il atteint en fait les 30% contre 40%, pardon, il atteint les 30% contre 14% chez les couples avec enfants. Et ben ça touche, en fait, ça représente 1 million d'enfants pauvres en France. Les femmes, les mères seules, sont plus exposées à la pauvreté et à la précarité. Elles sont d'autant plus fragilisées qu'elles doivent tout assumer, jouer plusieurs rôles, souvent s'oublier, travailler beaucoup, et ce sont elles qui sont en ligne de mire dès que leur enfant commet le moindre écart. On va aller essayer de chercher les pères. Enfin, j'espère qu'Aurore Berger, elle va essayer d'aller chercher les pères, mais c'est pas gagné. Et puis, pendant ce temps-là, que se passe-t-il au château, hein, où notre nouveau maréchal Pétain, notre Orban français, Emmanuel Macron, que fait-il ? Eh bien, il nous parle de nos utérus comme des armes pour repeupler la France. On se croirait dans un épisode de La Servante écarlate, cette dystopie où certaines femmes, les servantes, ne servent qu'à la reproduction, comme sous le régime nazi. Et sans aller aussi loin, c'est exactement ce qui se passe en Hongrie, où Viktor Orban, le chef de l'État d'extrême droite, a mis en place des réformes qui prennent les femmes pour des reproductrices, des poules pondeuses. Ces mêmes femmes qui, une fois devenues mères, devront assurer deux fois plus que les pères, qu'ils soient absents ou pas. Et là, je vous rejoins, Emma, on ne le dira jamais assez, restons vigilantes. On va faire une nouvelle pause musicale là-dessus. On reviendra sur le réarmement démographique, parce que quand même, ça nous titille. Mais on va faire pour l'instant une nouvelle pause musicale sur Canal B dans les héroïnes. On va écouter Saint Graal, Le cœur qui cogne.
C'est dégueulasse. J'ai tant rêvé d'un soir de juin où tu m'enlaces. À la boum, on se tient la main. J'avais presque oublié le quotidien fâcheux. À la maison, ça tease. Papa fume de la weed. Qui pleure
Ça, c'était Saint Graal avec son cœur qui cogne sur Canal B dans les héroïnes. Alors avant cette deuxième pause musicale, on était en train de parler de notre maréchal Emmanuel Pétain, qui moi quand il a parlé, alors je l'ai pas écouté, j'ai après à la radio suivi un peu ce que les experts, hein, les commentateurs en disaient et je pensais famille travail famille patrie. Maréchal Pétain, quoi. Allez, réarmons les utérus et allons-y, ferme de reproduction. On s'est dit qu'on allait conclure cette émission par une petite discussion de nos réactions à chaud à ces déclarations. Je pense que ça va un peu péter, non, en tout cas le 8 mars, ce qu'on disait en début d'émission dans vos souhaits, Suzanne. Mais ça nous laisse à la fois perplexe, en colère. Et puis ce vocabulaire militaire, alors ça, tout le monde est revenu dessus, mais il faut qu'il arrête. Hein. Manu, il faut qu'il soigne.
C'était bizarre parce qu'il parlait de l'infertilité, mais sans jamais parler des causes environnementales aussi. Faire des enfants, ok, mais en plus, il n'y a rien pour les accueillir. Enfin, le manque de place en crèche, les écoles, tout ça. Puis, voilà. Outre le fait que déjà nos corps, nos choix, il n'y a en plus rien pour accueillir convenablement des enfants.
J'ai noté ça, le truc sur l'infertilité. On en a parlé aujourd'hui avec les collègues. Et je disais, perturbateurs endocriniens, pesticides, etc. La baisse de la fertilité, notamment chez les hommes, c'est un problème qui, tient aussi à l'écologie. Mais comme il veut pas faire d'écologie, il peut pas en parler, quoi, de cette infertilité. C'est absolument barge de parler comme ça. Marine.
Sur l'infertilité, ça reste un tabou. On sait que, on va toujours dire une femme qui n'a pas d'enfant avant d'évoquer le fait que ça puisse être un choix. On va se poser mille et une questions sur qu'est-ce qui fait qu'elle a pas d'enfant. Elle doit certainement souffrir parce que l'épanouissement, c'est quand même d'avoir un enfant. On parle très très peu quand même de ce que c'est que avoir des enfants vraiment, là aujourd'hui en 2024, donc ça reste un énorme tabou, et c'est pas étonnant qu'ils reviennent à des valeurs comme ça de famille, et puis de famille très traditionnelle. C'est très flippant, mais c'est aussi un retour de bâton par rapport à l'expression de ce choix de plus faire d'enfants. Il veut pas effectivement entendre le côté écologique, mais il y a aussi, il y a des personnes qui ne veulent font le choix de pas d'enfants, pas du tout par rapport à l'environnement, mais parce qu'elles ont pas du tout envie de s'accomplir là-dedans, et elles ont raison. Elles ont raison. Parce que c'est leur choix.
Oui, parce que c'est leur choix. Ouais, on peut pas. Ouais, effectivement, et le mettre en cause, quoi. Mais en plus, ce qui est terrible, je sais bien qu'il est président. Hein, j'avais bien compris ça depuis le temps.
On l'a pas loupé, celui-là.
Je le subis bien assez, mais il a pas d'enfant.
Non.
Donc, à un moment, tu vois, il faut user d'un vocabulaire adapté, quoi. Quand toi-même t'as pas d'enfant, tu sais pas ce que c'est, et t'es un homme, t'as pas d'utérus surtout, et tu te tais. Et là, son vocabulaire, il est hyper agressif. C'est ça qui est encore plus énervant et qui met vraiment la rage, parce que il aurait utilisé d'autres termes, parlé de façon beaucoup plus douce et sereine. Mais là, c'est ça rend folle de se dire, mais le mec a pas d'enfant, le mec sait pas ce que c'est, le mec, et lui-même il a fait le choix, c'est vrai, j'allais dire, il a sans doute fait le choix de pas avoir d'enfant. Oui, on va pas revenir là.
Mais du coup, qui l'impose pas le contraire aux autres.
Ah, voilà. Voilà. Ne fais pas aux autres ce que t'as pas envie qu'on te fasse. Hein.
Non, mais effectivement, après, c'est toute la rhétorique, en général, des hommes blancs de pouvoir. Enfin, ils n'hésitent pas à sommer d'injonctions les femmes dont eux se désolidarisent et se déresponsabilisent totalement. Là, ça nous choque parce que, voilà, enfin, dans les vœux, bon, qu'on en reste à bonne santé. Voilà. C'est bien.
La santé, surtout.
La santé, bon, la santé des femmes, on a bien compris dans cette émission que c'était pas non plus la préoccupation, mais voilà, je pense qu'il met un petit coup de grâce après s'être exprimé sur Gérard Depardieu, hein, et là, voilà, il nous remet un petit
ouais, il nous achève,
et je crois qu'il a, enfin, voilà, il a pas acheter. Conscience de la puissance justement des femmes, enfin. La puissance de la colère des femmes.
Mmh. Emma, ce réarmement démographique, ouais. Ça vous inspire quoi ?
Bah moi, il y a eu deux trucs. Enfin, j'oscille entre deux choses. Au tout début, ça a été la naïveté parce que c'est un pote qui me l'a envoyé et j'ai vu qu'il parlait d'infertilité et mon pote m'a envoyé en mode mais c'est une dinguerie ça, on est d'accord ? Et j'étais en mode oula oui. Mais après, il parle d'infertilité, genre peut-être que du coup, il veut s'atteler au truc écolo. Enfin bref. Et après, du coup, j'ai capté que non. Et surtout, la semaine dernière, du coup, j'ai été à une projection à l'Arvor de femmes d'Argentine qui était sur la légalisation de l'avortement en Argentine. Et quand j'en suis sortie, il y a eu une discussion. On a parlé des réseaux de solidarité et tout. Et justement, de ce fait qu'en France, maintenant, plus personne sait comment avorter, à part que c'est entre les mains des médecins et de cette médecine patriarcale et tout. Et du coup, j'étais déjà en mode, waouh, faut vraiment lancer un club et genre réapprendre parce que le fascisme est là, quoi. Et genre maintenant, il y a ça cette semaine. Et du coup, c'était un peu une blague à la fin de ma chronique, mais en même temps, je pense qu'il va falloir se former.
C'était une mi-blague.
Ouais, mi-blague.
Et moi, j'ai lu cette semaine ou la semaine dernière sur Période Studio, que j'aime beaucoup. Il disait qu'il y avait recrudescence des sites internet anti-IVG, pro-life, alors qu'ils font très très bien leur site. On ne comprend pas tout de suite que c'est des anti-IVG. Alors, pour autant, je reviens sur ma copine. Aurore Berger, elle a insisté là-dessus, sur la constitutionnalisation de l'IVG. Donc, on va croiser les doigts.
Mais là, il y a urgence, du coup, à constitutionnaliser.
Ah ben, très,
parce que l'ancienne ministre de la Santé, dont j'ai oublié le nom et qui est partie, du
Rousseau.
Coup... Voilà, elle est allée voir un centre anti-IVG.
Alors, par Rousseau, puisque lui, c'était l'homme qui a démissionné après la loi immigration. Donc,
non, juste avant, la fin 2023, l'ancienne ministre de la Santé, juste avant le changement de gouvernement, qui est allée rendre visite à un centre anti-IVG. Normal, quoi. En disant oui, mais on a le droit d'aller voir les gens qui pensent pas comme nous et tout. Ouais, mais bon, dans les circonstances actuelles...
C'est un droit, quoi.
Et surtout c'est illégal de promouvoir, justement le...
Mais je cherche son nom, parce qu'il y a Rousseau qui a démissionné au moment de la loi immigration. Il était bien à la santé, Rousseau. Et donc, il a été remplacé par qui ? Alors, bon, on sait pas tout, hein, mais ça serait intéressant d'avoir son nom à cette dame qui va dans un centre anti-IVG, enfin qui va rencontrer des gens anti-IVG, parce que ça se dénonce effectivement ça. Mais ben voilà, on est bien parti pour 2000.
J'ai des lits d'entrave.
Agnès Firmin Le Bodo.
Voilà.
Et du coup, c'était un institut qui lutte contre la trisomie 21 et qui en plus a des positions très anti-IVG et tout. Elle avait été les voir.
Ok, merci pour l'info Emma, pour cette précision, je trouvais ça important de préciser ça. Bon bah on est bien parti pour l'année 2024, ça promet. Ouf. On est bien remonté, mais en même temps il faut qu'on reste vigilante. On va néanmoins terminer cette émission pour cette semaine. On se retrouvera sans doute la semaine prochaine, le 2 février je crois, ou alors dans 15 jours.
Ouais.
C'est dans 15 jours le 2 février. On va se quitter en musique, on va écouter un morceau qui s'appelle Distant Years de Slove et Jan Wagner.
Héroïne, une heure avec des meufs sur Canal B.